Allez, Chris, à toi.
À toute proportion gardée, je suis un peu comme Mondrian, si j'ose dire. Il y a de l'abstrait et du concret. Je passe d'un domaine à l'autre. Et c'est souvent sur les thèmes poétiques et l'aspiration. Je disais à Colette que j'ai beaucoup de choses qui ressemblent à l'album, mais ce sont des grands formats de 65-50, et là je ne pourrais vraiment, vraiment pas les amener. Mais ma peinture, j'ai beaucoup, Colette vous l'a dit tout à l'heure, j'ai fait l'atelier des arts décoratifs, et puis après chez le peintre Zemmer. Mais je me suis souvent laissée aller sur ce qu'on appelle les monotypes, c'est ce qui justifie l'album. Et puis de là, après, j'ai travaillé différemment, mais aujourd'hui, je ne fais plus de peinture à l'huile parce que je suis dans un local trop petit, et je me consacre à l'aquarelle et au dessin, voilà, tout simplement. Puis je n'ai plus tellement je ne peux pas dire l'envie, mais Jean-Paul n'est plus là pour me pousser parce que souvent c'est lui qui me donnait des coups de pied, entre guillemets, pour travailler. Voilà ce que je voulais dire.
En lisant l'œuvre de Jean-Paul, tu pourrais faire une série
oui.
En hommage à Jean-Paul.
Ah, ça, je peux. J'ai aussi ça dans
les projets.
Dans les projets.
Bon, d'accord. Donc,
j'ai l'impression d'arriver au théâtre.
Eh bien, justement, allez, Francine, à toi. Viens. T'avais une chaise là-bas.
Entre Michel.
Alors, Michel et...
Non, m'embrasse pas. Ah oui, mais je veux pas te passer mes trucs, là, parce que...
Entre Michel et Michel, voilà.
J'en sors pas.
On va tourner. Bon, très impressionnant. Ah, alors je fais un petit topo. Elle est plus fraîche peut-être. Je fais un petit topo universitaire entre guillemets dans la mesure où l'université adore les sources. Donc il y a trois sources très sérieuses auxquelles vous allez avoir droit, chers amis. Et je le dis cum grano salis, ce latin que Jean-Paul adorait, je le dis comme, avec un petit grain de sel, parce que Jean-Paul, par contre, s'il aimait le latin, n'aimait peut-être pas toujours les universitaires. Enfin, il le permettait dans mon cas. Bon, j'espère que le souffle, tout va revenir, parce que j'ai voulu terminer ce topo et je ne l'ai fini. Comme toujours que de nuit vers 5h du matin, il a fallu quand même dormir un peu, et quand je suis arrivée, je n'avais mangé qu'un demi-avocat. C'est déjà pas mal, ça dépend lequel. Bon, pardon.
Quelle moitié, c'est
vrai que... Oui, ça doit avoir plus
raison. C'est la moitié avec noyau, c'est quand même bien.
Ça tient encore.
T'as mangé la robe.
Ça va laisser la consommation.
Bon, alors je lis parce qu'il m'est impossible d'improviser étant quand même complètement endormie. Alors, pardonnez-moi, je commence par deux incises, mais qui n'auraient pas déplu à Jean-Paul, je crois. Donc, je voudrais commencer, et ça reprendra notre début, éternel retour. Bon, je voudrais commencer par un trait d'esprit ambigu qui n'aurait pas déplu à Jean-Paul Mestas pour la présence occulte du latin inclus dans un nom, ce Cresco où nous sommes. Quel oxymore pour un organisme officiel, donné à l'une de ces associations les plus anciennes, on peut dire ça, 81, non, c'était après ici. Enfin, peu importe, on verra ça ensemble. Donner une salle rikiki, alors que l'édifice répond au nom de Cresco. C'est un acronyme actuel qui pourrait venir aussi bien du latin, je vais le prononcer à l'italienne, crescere, croître. Donc on part de Cresco, première personne du présent de l'indicatif, qui signifie « je m'agrandis » tout en nous rétrécissant dans le réel. C'est le langage à l'envers ou un fake news. Ça, on ne peut pas trop le dire au maire. Alors, un dernier fait.
Surtout que ce n'est pas un acronyme.
C'est vrai?
Oui, c'est tiré de la devise de la ville.
Ah, qui est justement Je m'en crois.
Fresco et je sais pas quoi.
Et un Je m'en crois.
Et il y a un autre. Y a
c'est trop drôle.
C'est la devise de sa
mère. C'est trop drôle. Merci, c'est très bien. Un dernier fait qui n'aurait pas déplu davantage à Jean-Paul, en tout cas au départ, hélas, définitif quasiment, du centre de Pierre Cochereau. Vous vous souvenez de la salle où nous étions précédemment. Alors, j'ai découvert la qualité de ce dernier en ouvrant le Larousse 2016. Virtuose compositeur titulaire des grandes orgues de Notre-Dame.
Vous ne savez pas ?
Ben non, mais tout le monde ne le sait pas ici, si ?
Non,
ah, ben pas tout le monde. Il fallait le dire. Nous n'avons pas eu le temps de le dire, Michel Passler-Goumois, le 27 avril dernier. Donc, 12 jours seulement après son incendie. Alors, c'était troublante coïncidence. Je suis sûre que Jean-Paul aurait dit « Cela le reste ». J'en suis sûre. Chris, tu diras. Après avoir sollicité votre indulgence, comme disaient les antiques ou les dramaturges espagnols, manque de références consultables suite à déménagement provisoire égal éternel et suite à don de quelques 1000 recueils à la BU d'Angers, venons-en à Jean-Paul Mestas, maintenant sous l'aspect de critique. Donc mon titre, en somme, ce serait « Jean-Paul Mestas en critique éclairé, érudit, poète, voire prophète ». Je vais vous citer les deux premières sources de 5 à 7 pages sur lesquelles j'ai pu travailler. La première, l'article qu'il voulut bien dédier, pardon pour les mémés, qu'il voulut bien, vous verrez qu'il le disait autrement, l'article qu'il voulut bien dédier à mes 15 ans de poésie, livre paru en 81, il nous le donna à connaître précisément à Saint-Mandé, le 27 mars 82, etc. La seconde, l'article qu'il consacra à Serge Brindeau, 20 ans plus tard, en 2000, à l'Université d'Angers, lors de son colloque, après la mort de cet ami survenu, le 27 avril 1997. Enfin, j'ai reçu récemment de Christiane Mestas, pour une apologie de Pierre Corneille, de 99, quasiment la même date que pour Serge, ouvrage beaucoup plus important que nos articles, à savoir 60 pages bien serrées. Dans les 10 minutes imparties, je ne sais pas si c'est 10 minutes, on ne peut donner qu'un aperçu. Cette profonde synthèse de l'apologie de Pierre Corneille réclame une étude approfondie car fondée sur la philosophie, les sciences. On nous a parlé de son intérêt pour l'astrophysique, par exemple, les lettres, les écrivains du monde. En ce qui concerne la philosophie, où il écarte Kant, Hegel, par exemple, pour s'allier à un Merleau-Ponty, un Mounier, un Émile Alain, un Einstein mystique, façon aussi de retrouver le libellé à nous proposer pour cette réunion, Jean-Paul Mestas ou le chant de l'âme. Notre public agnostique, voire athée, souffrira les passages choisis afin de le rendre à sa rectitude. Voici d'abord une liste bien incomplète de quelques caractères, enfin, liste complétée par exemple, mais incomplète, de quelques caractéristiques, quelques empreintes de la recherche critique de Jean-Paul dans les trois cas, les deux articles et pour une apologie de Pierre Corneille. Il est d'abord vraiment critique au sens de polémiste, bretteur. Dans aucune de ces trois études n'est absent son rejet de ce que les prédicateurs du XVIIe siècle appelaient le siècle. Lui résume hardiment la société présente cette méduse. Il en va donc de même pour lui avec le XXe, dans le même rejet des travers contemporains, voire des travers de divers contemporains. Dans cette corbeille, plutôt poubelle, sic, figurent les... Alors, c'est lui, Serge Brindeau, je le vois encore faire au début des citations, ses petites vagues, ses ondes. Donc, dans cette corbeille, plutôt poubelle, sic, figurent les raisonneurs qui ruminent des estimations et des réflexions, mais que l'art ne nourrit ni n'inspire. Ou bien... On dirait qu'ils sont des régiments à confondre la licence et la volupté, l'hypocrisie et la retenue, la perversité et le plaisir. L'art, pour lui, est vu comme inséparable d'un minimum de sincérité, de dignité. Je crois qu'il n'aurait pas très aimé Kunst et autres. Hein. Je dis Kunst, c'est pas, ça se prononce pas comme ça, pardon.
Oui,
c'est le homard. C'est alors que certains critiques, à leur tour, en prennent pour leur grade. Voyons l'humour. Corneille, entouré de tous ses défauts de pêcheur, devant l'Éternel, de Normand, n'est pas l'affreux bonhomme que campent les venins de Paul Guth, avec le renfort du pâle d'Aubignac, du prétentieux Méré et de l'aigre Scudéry. Certes, à ne pas confondre avec la grande précieuse mademoiselle de Scudéry, ni avec le grandiose Agrippa d'Aubigné. Hein. C'est un Aubignac que j'avoue ne pas connaître du tout. Bon, deuxième point. Du coup, s'étant débarrassé de divers poisons, disait-il, il peut passer à ce qui pour lui n'est pas du peu. Deux expressions répétées, la première pour ses haïssables, la seconde pour ses protégés, guillemets. Il passe en terre de sympathie. On note alors, ceci a été dit, je donnerai simplement de petits exemples au passage, très bien dit, on note alors de très nombreuses références classiques issues des humanités via les noms d'auteurs, d'ouvrages, de fragments choisis même en langue originale. Qui est latiniste ici? Ah, tu me le diras après, j'aurais dû te prévenir. Et Manicole aussi.
Oui, un peu quand même.
Très bien, très bien, très bien. Ben, je le suis en principe. Bon. On note alors de très nombreuses références classiques, nom d'auteurs d'ouvrages de fragments, même choisis en langue originale. Par exemple, deux citations latines, dans ce que j'ai pu entrouvrir, tirées de Lucrèce, donc le fameux de la nature ou des natura rerum, ou de Cicéron dans les Tusculanes. J'en profite pour faire un petit trait d'humour, parce que je me suis aperçue que, en fait, Jean-Paul savait manier fort bien l'humour, mais rarement, n'est-ce pas, Christiane, hein? Alors, petit grain d'humour. Je croyais ne pas aimer cet homme, je parle de Cicéron, au planchiche. Beaucoup doivent le savoir ici. Cicéron vient de Cicéron en latin, qui veut dire le planchiche. Bref, on apprécie, c'est un peu comme la banane de Bachot, en somme, enfin bon. Bref, on apprécie d'être placé parmi ces familles littéraires apparemment lointaines. Alors, je vais le lire en latin parce que c'est trop beau, ça retombe à merveille. Folliculos ut num teretes estate cicadeliquam. Parce que je ne sais pas si c'est teretes ou teretes. Je dirais plutôt teretes, mais bon. À voir, ça, j'ai pas vu dans le gaffio, j'ai pas trouvé bien dans le gaffio. Le tout voulant dire comme aujourd'hui les cigales abandonnent leur tunique. Au passage, voici une belle traduction originelle d'un mot grec, cité tel quel dans le texte, le corneille, autarkeia, où nous reconnaissons l'autarcie, mais que Jean-Paul qualifie si bien de suffisance accomplie. Très belle traduction. C'est ainsi le bonheur des fils culturels à partager. Au fur et à mesure des relectures en filigrane d'une synthèse personnelle, je devine l'empreinte de tel créateur ami nullement mort, soit une mémoire juvénile ancrée pouvant l'emporter sur des lectures plus récentes. Oh, pardon, ça je l'ai supprimé. Comme lui, je récuse le refus contemporain de l'intertextualité, d'autant plus qu'elle s'établit, selon un René Pons, poète, critique et plutôt alceste, dans la connivence que les écrivains nouent à travers le temps avec les morts, apparemment morts, avec d'autres œuvres. Cela dit, pour les confrères amis qui nous découvrent en tant que nouveaux poètes, il est naturel qu'ils ne recourent pas à ces rapprochements. Jean-Paul, Chris et moi, nous sommes connus dans les années 75-77, fort ancienne connaissance, avec des petits creux, des petites bosses et des retours très profonds. Chez Marguerite Grépon, féministe humaniste, selon Serge Brindeau, tout se tient. Après le stylet, le style. Dans une tonalité plus heureuse, et plus souvent, Jean-Paul utilise un style que l'on peut qualifier de fleuri, lyrique, on en a eu des aspects, parfois même baroque. Et pas toujours si simple, cher Michel, tout dépend. Il aime à jouer de préciosité élégante. Il imagine les majorats de l'amour. magnifique, en non oublissant de fait l'amour concerné et notre vocabulaire. Le majorat, en l'occurrence, est un bien inaliénable, attaché à un titre de noblesse, amour noble donc. Et voici comment il introduit son exposé Brindeau. Nous ne sommes nous-mêmes, ça c'est nous aussi, nous ne sommes nous-mêmes séants que des témoins éphémères. Qui en 2019, qui même en 99 userait, avait usé, de cet étrange adverbe séant ? Il évoque pour son lecteur le dire séant, et mieux encore l'océan, sans trop entrer dans la génétique textuelle, comme on dit, ce qu'il écrit alors son Corneille, sous-titré « L'océan dont je parle ». Et quel est cet océan ? On croit comprendre au fur et à mesure que c'est l'écrivain Corneille et le divin. Plus loin, Brindeau est entré dans son panthéon de philosophes, de ceux qui, dit-il, soutiennent la sagesse. Voilà qui parle plus que la pâle amitié pour la dite sagesse, philosophia. Notre Serge en est devenu cariatide, ou plutôt atlas. Alors Jean-Paul, le philosophe se reconnaît à ce qu'il a inséparablement, lui ne dirait pas en même temps, donc se reconnaît à ce qu'il a inséparablement le goût de l'évidence et le sens de l'ambiguïté. Si Mestas est ici dans la filia familière, il peut avoir par ailleurs recours à la rhétorique, du moins à certains de ses procédés, de véhémentes anaphores. Si vous voulez des exemples, ça n'est pas piqué des vers, je n'en dis que 3 ou 4, si vous voulez bien, à savoir s'il plaît aux bons esprits. Alors ce sont tous les disciples de Corneille auxquels nous ne penserions pas forcément. Je vous donne 4 exemples seulement, mais il y en a 15. Anaphore. Corneille, poète des affinités, de l'amitié et de l'amour. Et ce sont un Guillaume Apollinaire, un Léon Paul Fargue dans la descendance. Corneille, poète de la charité, de la constance et de la croyance. Et c'est un Patrice de la Tour du Pin dans la descendance. Corneille, poète du devoir et de la droiture, et c'est un Michel Manol dans la descendance. Corneille, poète de l'élévation et de l'énergie, et c'est Oscar Vladislas de Miloche dans la descendance. On trouvera ensuite, notre Max Allo n'est pas là, mais Alain Borne, Pierre Reverdy, Louis Guillaume, Charles Vildrac, Jean Cayrol, Robert Desnos, Marx, Jacob, Saint-Paul Roux, qui lui crume pour Corneille, hein, Saint-Paul Roux, Ségalène, Supervielle, Luc Estan, Pierre-Emmanuel, Armel Guerne, Paul Valéry, Pierre-Jean Jouve, Lanza del Vasto, Charles Péguy. On retrouve beaucoup de Péguy dans l'écriture de Jean-Paul, d'ailleurs, aussi. Bref, alors donc tout est dans la descendance, litanie, anaphore, litanie, lui conviendrait peut-être mieux. Alors, litanie, de nombreuses périphrases. Alors pardonnez-moi, il était déjà tard ou très tôt, j'ai pris un petit exemple qui n'est pas le meilleur, hein, s'il en a de très belles périphrases et même antonomases, mais bon, un petit exemple ouvert. Cette capitale de la finesse, laquelle ? Nous apprenons que c'est la ville d'Angers, enfin celle du roi René Ier, dit le bon. Quatrième petit point, le passé sans doute, mais aussi le présent. Jean-Paul ne répugne pas à quelques néologismes de charme. Découvrant le beau substantif enflammement, ardent dans cette expression, la force, ou faisant arbre, on pourrait dire faisant ardre, mais c'est pas beau, ardre, arbre, dans cette expression, la force d'enflammement. De la même façon, il forge des expressions troublantes, les lèvres des plantes, dans un contexte qui n'est pas celui des plantes carnivores. À propos de Corneille, il évoque un sang de fronde, rappel des troubles de la jeunesse de Louis XIV, voire le mythique combat du jeune David contre le géant Goliath. Plus loin, une autre force pour le second Corneille, il lui accorde une force de grâce. Il faudrait tout lire ensemble. Cinquième point, les deux forces et grâces, afin de cerner, dit-il, au vu, cerner son objet d'étude, son sujet, au vu de son empathie humaine. On en a la preuve dans chacun de ces textes associés, excusez-moi, il y a des ratures associées à un poète, dans Face aux rêves, recueil posthume de 2015 qu'a donc voulu Christiane. Dans les deux articles, on note l'intérêt pour la voix. Et dans cette logique, il pratique en fait une étude psychologique poussée, évoquant par exemple la timidité apparente de Brindeau. Ajoutant alors, hors le chaos en marche, attention, c'était en 99, Serge semble à certains ne pas s'être défait des sandales de l'adolescence. J'avoue aimer des trouvailles telles que celle-ci. Là où d'aucuns préféreraient simplement, il ne s'est pas défait de l'adolescence. Donc Serge, pardon, j'ai perdu, c'est Jean-Paul. Jean-Paul dit, il ne s'est pas défait des sandales de l'adolescence. Ces sandales, pour nous qui avons connu Serge, rappellent sa grande silhouette un peu dégingandée, nous ramènent surtout à ses parcours en France et encore à la métaphore de Rimbaud. Circonvolution superflue ou incarnation plus sensible ? Il lui donne enfin d'autres parrainages que les cités, Gabriel Marcel, Jules Romain, Jean-Jacques Rousseau. 6. Jean-Paul Mestas, il y en a 9, hein. On arrive à la fin, courage. Jean-Paul Mestas, un frère humain, pour ne pas dire un voyant, je m'explique. En effet, 36 ans après, je découvre qu'il avait annoncé 2 ou 3 titres miens. Est-ce un hasard ? Une hyper-intuition ? Ou alors, pour son sujet, Her subject, l'imprégnation par ses lignes, his lines. Par exemple, j'ai écrit un femme à l'oiseau par rapport à son appel de l'oiseau qui n'existe pas et qui sont mes simorgues ou phénix. Et ceci a été dit, pardon, je donne un exemple en plus. Lui n'était-il pas en quête de ses oiseaux et des rares salanganes ou ménures dans Face aux rêves précisément. Émouvante est par ailleurs sa citation de Bachelard. Les grandes passions se préparent en de grandes rêveries. Gaston Bachelard le disant. Elle me fait mémoire, pardonnez pour le moi, elle me fait mémoire, ou elle fait mémoire de ce que me confièrent mes amours, pourtant homme simple, ainsi parlait Pierre Garnier. 7. On sait qu'étudier le poème d'autrui, c'est se livrer aussi bien à une autobiographie que nous représentons. Cela se produit en passant pour cet être pudique, Jean-Paul, qui n'aime pas, et alors il a une formule, une chenille amusante. Alors, il n'aime pas le « je me, moi, mon, ma, me ». Bon, « ma, me », c'est quand même un éditeur. Soudain surgit la révélation des lieux, alors ceci a été dit, des lieux d'une des familles Mestas que j'avais oublié, la province auvergnate. Il ajoute l'importance de l'amitié rurale, les couches de feuilles, d'os et de destin. Et c'est dans son choix entre plusieurs définitions de la poésie chez ses affinités électives qu'il se donne à voir. L'amour et la nostalgie de tout, ou encore, Brindeau, après l'aventure avec les mots, on se retrouve avec d'autres poètes sur les chemins de l'être qui demeurent cachés. Jean-Paul déclinera cela dans Le Corneille. 8. Revenons au poète lui-même. Écoutons-le au terme de son exposé, toujours Brindeau. Et là, parvenu au terme de son exposé à propos de Brindeau, si je parlais bien. Et là, parvenu au terme de cette esquisse de pèlerinage, parmi des jardins qui demeureront toujours ouverts aux passagers de l'avenir, nous dédions l'appel d'une rubiette à Serge Brindeau comme un signe de la main, ces signes qui nous faisaient en quittant, de la main et du cœur, tandis que pour un instant, nous avons dominé l'absence, enfin, presque. Ah oui, excusez-moi une seconde. Mais en plus, c'est le jour où mon père est mort. Donc ce 30 novembre me trouble quand même. Pardon. Ouh.
Alors, un petit peu d'eau.
De quelle façon émouvante Jean-Paul n'évoque-t-il pas sa peine, cette fois par une ellipse ? Ne devait-il pas dire, devait-il entre guillemets, nous avons maîtrisé la tristesse de l'absence. Autre ellipse soudaine où passage et l'idée, une ligne avant, celle de l'oiseau de l'âme, puisque nous savons l'oiseau psychopompe pour les anciens. Celui-ci n'apparaît pas entre les lignes, mais se retrouve dans l'appel d'une rubiette, qui est un oiseau, je le dis après. Et tout d'un coup, en vous le lisant, je me dis que c'est cette rubiette qu'il avait trouvée, c'est un petit peu une onomatopée. Rubiette, rubiette, qui sait ? Je sais pas. Précieux recours au dictionnaire. Pour moi, les lâchâtres des années 1870, que j'ai gagné de l'héritage de mon oncle instituteur radical socialiste, Émile. Bon, bref. Contemporain de l'adolescence de Rimbaud. La rubiette, ce n'est pas une précision absolue, hein, mais vive la châtre. La rubiette est un oiseau rare de la famille des becs fins, semblable à un merle. C'est maintenant in fine que nous comprenons le titre singulier de l'hommage à Serge Brindeau, lequel était Serge Brindeau, etc. Le temps des cerises. Et quasiment deuxième sous-titre, les volutes d'une âme. Donc nous retrouvons avec cette rubiette qui est merle et qui étend des cerises, le merle moqueur, n'est-ce pas ? Voilà. Remémoration d'un refrain qu'il aimait et que Serge aimait, c'est sûr. Et Jean-Paul aimait le temps des cerises ?
Oui, beaucoup.
Ah ben voilà, ces deux hommes se sont rencontrés. C'est de... On n'ose pas dire maître, mais on peut le dire, zut. La poésie ne fait-elle pas surgir entre le vif et le mort de l'année 2000, l'impondérable ? Je dois terminer par son autre refus, pour lui sans doute symétrique du premier, à savoir, enfin celui que je vous disais auparavant, à savoir le refus du siècle. Donc un autre refus, celui de l'ablation du divin. Je me dois certes de respecter la pensée, le vœu de notre auteur. Alors, c'est là, je ne me le suis pas relu, mais, alors les photocopies, les scans de Corneille, du Corneille, un très beau passage où il a l'humilité d'ailleurs de ne pas se dire, mais de reprendre Einstein. La plus belle, alors Einstein. Il dit d'ailleurs, et c'est dans le trajet contraire avec, je ne peux pas lire tout ce qui est précédent, avec une infinie compréhension à la racine et sous la semelle de Dieu, en l'occurrence certains diraient, tiens, il était scorpion ascendant poisson, hein, il permettait, ce qui ne se fait plus à Paris, il permettait qu'on en parle, on parle de ces choses scandaleuses à Paris. Bon, je souris, souriez s'il vous plaît. Donc, c'est très beau, hein. Dans le trajet contraire, alors la semelle, les pieds, les poissons, hein, tout se tient, une fois de plus. Dans le trajet contraire, alors Jean-Paul, et ensuite Einstein. Dans le trajet contraire, avec une infinie compréhension à la racine et sous la semelle de Dieu, je l'ajoute en imaginant Einstein en train d'écrire. La plus belle et la plus profonde émotion que nous puissions expérimenter est la sensation mystique. C'est la semence de toute science véritable. Celui à qui cette semence est étrangère, qui n'a pas la possibilité de s'étonner et d'être frappé de respect, celui-là est comme s'il était mort. Savoir que ce qui nous est impénétrable existe réellement et se manifeste à travers la plus haute sagesse, la plus rayonnante beauté, sagesse et beauté que nos faibles facultés peuvent comprendre seulement dans leur forme la plus primitive, cette connaissance, ce sentiment est au centre de la vraie religion. Einstein encore, de même qu'il est toujours bouleversant d'imaginer Einstein en train de méditer puis d'écrire encore deux points, et je termine, pardon, ma religion consiste en une humble admiration envers l'esprit supérieur et sans limite qui se révèle dans les plus minces détails, que nous puissions percevoir avec nos esprits faibles et fragiles. Cette profonde conviction sentimentale de la présence d'une raison puissante et supérieure se révélant dans l'incompréhensible univers, voilà mon idée de Dieu, ce qui établit un pont entre Einstein et Platon. Mais je suis quand même forcée de sauter un paragraphe pour vous dire ceci qui nous concerne. Or, les poètes appartiennent à l'avenir, la capitale des poètes n'appartient à personne, et les clés du royaume de la poésie appartiennent à tout le monde. Bon, je reprends pour Kathleen, pardon, je devrais m'arrêter là, c'est trop bien. Alors, excuse-moi pour ce que je vais dire, ma chère Christian. Ne semblera-t-il pas à d'aucuns parfois réactionnaire ? J'aimerais pour ma part qu'on le perçoive plutôt comme un réactif passionné. Achevons avec le salut de la poète arverne Nicole Barrière, deux points, sa précision et son ouverture à l'imaginaire, de l'imaginaire, nous captent, et l'on sent bien le pacte du poète avec ses convictions, une clarté salvatrice. Et voilà.
Merci.
Merci. Merci.
Je le lui devais. Je le lui devais.
Alors, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je voulais vous lire quelques extraits. J'avais prévu d'en lire beaucoup, mais là, je crois que je vais raccourcir un peu. Des extraits pour répondre donc au Dieu que tu as évoqué, de « Entre les colonnes du vent », qui a été écrit donc à la Chartreuse du Liger en 1983. « Ne me regardez plus de loin, ni de si haut, dit-il. À présent, je demeure en vous, dans cet angle invisible. Pourtant, le mot trouvé ne fut qu'un moment de pierre éclatée dans la folie des graines. » Chanter, mais tu dois tout chanter, fit-elle, fit le frêne aussi, en épelant l'espace au bout du pied du monde, alors que le soir s'asseyait à la table d'office et que les revenants en bénissaient la nourriture. La pierre fond en nous, je te le dis, je vous l'écris, l'ombre n'a plus de poids, sur les yeux pris par la lumière et qui cherchent on ne sait quoi, dans les fissures du silence. Je n'ai plus peur de vous qui n'existèrent que pour moi, dans cet habit de solitude, et la main comme pierre. Allez-vous-en, ici tout appartient à l'avenir. Les ruines mêmes ont multiplié le bonheur comme les tournesols, et la paix vient, la paix dont les vêtements sentent bon, comme un matin à sa fenêtre. Je ne suis pas des vôtres, et que m'importe, une idée peut mourir sans regarder qui la regarde, avec des yeux absents et la main verrouillée. Notre amour vivra là, notre souvenir vivra là, dans le foulard des graines et parfois aux lèvres du vent, lorsque nous reviendrons sous les odeurs de bois coupé, celles des champignons, ou portant un autre visage avec les nostalgies nouvelles. Ni l'homme ni le grain, dit-elle, on entend bien que le glaïeul prier, que la mer d'outre-temps qui reconnaît les siens et que les fumées évasives. Attendez donc un peu. Toutes les ressources de vie sont dans ce morceau de soleil qu'habille un feuillage de mots. La cruauté ne parle plus notre langage, et n'ayant plus grand-chose à dire, une larme s'efface avec l'illusion d'un sourire. J'ai voulu te dire beaucoup. Entre nous, les nuits se sont mises avec leurs couleurs mortes, avec les chapeaux démodés d'une époque portant nos masques et les hasards sans passeport. Aussi, je n'ai presque rien dit. J'ai regardé vivre les nuits comme des portes entrouvertes à celui que j'aurais pu être. Voilà. Et... terminer, je laisse la parole à Chris.
Voilà un poème que j'aime beaucoup. Je crois que c'est un de mes préférés. Contre toute indifférence, vous y pensez, le jour peut tout. Le jour est la beauté de l'homme, un grand foulard sur qui lever la tête en traversant les murs. Cette fois, nous irons et vous irez sans réfléchir vers ce paysage innommé dont les femmes font la saison, comme un épi géant, comme un dimanche végétal. Le jour est la beauté du monde, un livre d'homme où la mémoire est d'herbe et l'oubli d'un œil fixe avec la vie en cage. Car nos chemins se croisent avec les violons du bonheur qui reviennent, qui vont entre les solitudes, entre les lourds pavés de nos rêves prémédités. Vous y pensez, le jour peut tout, le jour est la beauté de l'homme, le jour est la beauté du monde.
Merci. Hop, voilà. Non, non, mais vous pouviez continuer à applaudir. Voilà, merci à tous
merci
pour
beaucoup.
Cet
merci
hommage. Voilà, c'était important de le faire.
Francine avait, m'a suggéré quelque chose. Je voudrais demander à nos intervenants s'ils veulent bien m'envoyer leur texte. Dans les mois qui viennent, je ferai un petit compte-rendu de ça.
Très bien.
Dans ton Anna.
Non, je le ferai. Oui, peut-être. Je sais pas, je verrai. Je verrai. Un petit tiré à part de ce que vous avez dit.
Pense le nombre de. Enfin, c'est pas le mot d'ici, mais tout ce que vous avez suscité, tous les deux, il faut le dire quand même. Hein. C'est ça. Hein.
Il y a une chose dont j'ai oublié de parler.
300 personnes ici, pour ne pas dire 1000. Ouais.
Bon, il y a une chose que je voudrais signaler quand même, dont il était très fier, c'est le don que nous avons fait à la médiathèque de Nantes.
Ah oui.
On a donné 6000 livres de poésie, dont certains parmi vous nous envoyaient leurs œuvres et qui sont maintenant à Nantes.
Ça vient
c'est un fond, 14 ans.
14 ans à être. C'est effrayant.
C'est-à-dire que la conservatrice, enfin pas la directrice, pardon, de la médiathèque n'aimait pas la poésie. Alors, on est passé au dernier. Elle n'aimait pas trop les livres non plus. D'après ce que j'ai
compris.
C'est ça qui est terrible. Mais elle est partie. Elle est partie et je pense
c'est mieux de...
aller voir sa remplaçante parce pour la suite de l'œuvre. Je vais aller voir ça en 2020.
Mais j'ai vu à la médiathèque de Nantes.
Oui.
J'ai vu effectivement les listings.
Oui. Et c'est un.
C'est bien paru, c'est bien
on
fait.
Peut, on peut le visiter sur rendez-vous. Il y a un conservateur qui est habilité à
ça. Et surveille si on n'arrache pas une page précise.
C'est dans un endroit très précis. Hein,
c'est normal. Ah, oui. Oui. Enfin, pas le samedi en général à Nantes. Hein.
Ça, je sais pas.
Non, il vaut mieux pas y aller.
Ça craint le samedi là-bas.
Donc, prochain rendez-vous, bonne fin d'année déjà à tous.
Merci.
Prochain rendez-vous le dernier samedi de janvier, ce sera dans cette salle-ci, normalement. Et j'invite Béatrice Marshall.
Ah, c'est bien. Bon. Ah,